48 FM.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Par le bout de la lorgnette.
Salut.
Tu attends que je te donne la parole, s'il te plaît, Louis.
Bonjour. Oui, tu ne le faisais pas aujourd'hui. Strict aujourd'hui.
C'est l'été, il fait chaud.
C'est les vacances, on peut mettre le bordel.
On va se lâcher.
Non, c'est pas strict aujourd'hui parce que c'est la dernière avant la pause estivale.
Elle est toute triste.
Et on reviendra en septembre quand même.
Ah.
Pour la rentrée littéraire. Mais comme c'est la dernière, Valérie, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va présenter quoi?
Des livres.
Des livres. Ça, c'est une bonne réponse. Soyons plus précis, s'il te plaît.
Les livres que nous allons tous lire sur la plage, dans la montagne, dans le hamac, sur le transat ou au bureau, pour ceux qui ne partiront pas en vacances.
Ou sur un bateau.
Aussi.
Voilà, c'est Héloïse nous a fait une sélection de livres spéciales vacances. Pourquoi? Parce qu'ils sortent maintenant ou c'est...
Oui, c'est des livres normalement assez légers qui sortent maintenant pour les vacances. Après, bon, j'avoue que je n'ai pas assuré sur cette sélection-là. Mais
Moi, je suis ravie du mien.
On verra.
Les chroniques de mon crématorium, léger.
Super léger, vous allez voir.
Il y en a d'autres là-bas au fond.
Il y en a des très bons parmi ta sélection. De toute façon, c'est ça l'histoire du livre. Il y en a des très bons et des très mauvais. C'est comme pour tout. Héloïse, c'est toi qui vas commencer avec une fleur en enfer d'Alper Caniguz.
Caniguz, oui, tout à fait, qui est un auteur turc, édité chez Mirobol, donc cette maison d'édition dont on a beaucoup parlé cette année. Mais je ne m'en lasse pas, donc je vais vous présenter celui-ci. Donc, c'est le deuxième livre d'Alper Caniguz. Dans ces deux livres, il y a le même personnage principal, qui est le narrateur également, c'est le petit Alper, qui a 5 ans. Donc, c'est un gamin extrêmement intelligent, extrêmement cynique aussi, il a un esprit incroyable et on l'aime, mais en même temps, on le déteste, quoi. Il est vraiment, il tape sur les nerfs, enfin, je sais pas, c'est très bizarre comme personnage et j'ai beaucoup aimé. Il se qualifie lui-même de psychopathe. Il dit « Je suis un psychopathe, je vais sans doute devenir tueur en série.
» Il a 5 ans, c'est
vrai que c'est léger pour la plage.
Il a 5 ans, il est amoureux. Il est amoureux de sa nounou et la désire, mais vraiment sexuellement, par exemple. Donc c'est un gamin, mais vraiment à part. Il a 5 ans.
Donc c'est une sélection érotique que tu nous as
Mais malgré proposé. Moi, en fait, je sais pas. Fait.
Rien n'est innocent.
Très bien, donc on en parlera plus tard. Donc en fait, il parle aux adultes avec une assurance qui dépasse toutes les limites. Et tout ça, ça donne des situations extrêmement drôles. Donc le petit Alper s'est fait virer de la maternelle et du coup passe ses journées dans son quartier à Istanbul à traîner, voilà, etc. Il découvre en fait plusieurs affaires de meurtres, d'enfants battus, de drames passionnels. Et donc, tout ceci va se mêler. Il va enquêter, en fait, avec son ami, le commissaire de police, qui remet en place très souvent, d'ailleurs. Et voilà, c'est très prenant, c'est très drôle. Et ce personnage, moi, je l'adore. Et je vais vous lire juste un tout petit passage pour vous rendre compte, en fait, du ton sur lequel il parle. Alors, page 58. Donc là, il est dans sa chambre, il réfléchit, en fait. Il n'arrive pas à dormir, il réfléchit. Sincèrement, il y a peu de choses au monde que je trouve plus repoussantes que les hommes qui ergotent sur l'amour. Pourtant, il est impossible d'en faire abstraction. En vrai ou en fiction, on dirait que la vie entière tourne autour de ce mensonge qu'on appelle l'amour. En plus, l'expérience montre que ce venin est le messager du malheur plus que celui du bonheur. Et alors, pourquoi tout le monde est-il à sa poursuite? Mais est-ce réellement le cas? J'ai pensé à mon père et à ma mère. Ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre. Je n'ai rien trouvé non plus qui indique qu'ils l'aient été dans le passé. Même s'ils se disputent de temps en temps, ils mènent leur vie tant bien que mal, c'est tout. Le jour, ils vont à la chasse, attrapent des oiseaux. La nuit, ils se retirent dans leur caverne, se reposent. Et dans l'intervalle, ils perpétuent le clan en se reproduisant. Ce qui implique ici d'élever un potentiel tueur en série. Voilà.
Ça 5 ans.
Il a 5 ans, il est génial. Et c'est donc, oui, vraiment.
Voilà, et là, vous êtes au bord de la piscine et votre mari vous dit « La salade de tomate, tu pourrais ajouter des mozzarella, tu, on attend. »
Mon mari, il ne parle pas comme ça.
Je n'ai pas eu cette chance de le connaître. Ouais, je sais, on a discuté un peu ensemble. Je sais qu'il fait partie de la catégorie sociale supérieure.
Voilà, exactement.
Mais bon.
Donc, bref, et c'est un auteur.
Qu'est supérieur, c'est quoi
c'est... c'est entre nous, hein, on peut pas.
Ah bon.
Ministre. Il est ministre.
Donc, bref, j'ai envie de dire que c'est. Je rajoute quelque chose.
Du basilic.
Du pesto.
Que cet auteur... Bon, ça va, ma tarte était très bonne, quoi.
Excellent.
On peut le dire.
Très, très bonne, ouais. C'est du pesto, le truc vert.
Base au pesto.
Oui, c'est ça.
Ah, c'est très bon.
Oui, je lui ai posé la question, si c'était pas autre chose.
Voilà, donc, Albert Camus.
Heureusement, c'est bientôt les vacances. Ouais.
Albert Camus, qui est l'auteur de ce livre qui est fabuleux, viendra à la librairie La Lorgnette le 30 juin à partir de 18h30. Donc, ça va être génial, venez.
Ouais.
30 juin, c'est
quoi ? Édition Mirobol, hein.
30 juin, mardi, je crois. Ouais.
Édition Mirobol, c'est quand même en général des auteurs super. Exceptionnels. Quoi, ouais, hein.
C'est vrai.
Franchement, donc, tout ce qu'on a lu chez Mirobol. Ouais,
franchement, à chaque fois, c'est des vrais
chefs. C'est une chance, Mirobol.
Et c'est le plus à l'est des pays de l'Ouest dont on a parlé des éditions Mirobol, j'ai l'impression.
Elles n'ont pas compris, non, Mirobol.
On t'écoute plus, Ludo. Ouais.
La blague à Ludo.
C'est quoi la blague?
Elle est complètement passée à côté.
Ce n'est rien, poursuivez.
C'est une chance, non? Ouais. Bon,
Ok, super livre, et vous pourrez le faire dédicacer le 30 juin à la Lorgnette,
ouais,
un polar d'un enfant de 5 ans.
Il y aura de la quiche au poulet basilic.
Poulet basilic, ouais. Est-ce qu'il y en aura?
Il y aura plein de choses à manger, mais c'est ça, arrêtez de vous moquer.
La dernière fois, c'était très bon pour Matthew McCarthy.
Matthew McBride.
La manger Frank Sinatra dans un mixeur, c'était génial.
C'est la dernière, il dit n'importe quoi, il a tout mélangé.
Un peu épicé, mais c'était très bon. Pauline.
McCarthy, vas-y, Pauline McCarthy.
Farigoul Bastard. Comment tu veux que je me rappelle aussi de ce nom?
Farigoul
Bastard de.
Farigoul.
De Benoît Vincent.
De Benoît Vincent chez Le Nouvel Attila. Donc Benoît Vincent, il est botaniste de formation, il vient de la Drôme. Il a publié pas mal de choses jusque-là, mais uniquement sur le net. Il participe à des blogs collectifs de littérature. Et là, c'est son premier livre papier. Donc l'histoire, c'est donc Farigoul Bastard, de son vrai nom Jean-Louis, qui est un berger de Haute-Provence très profonde, qui se retrouve invité à la rétrospective de son œuvre à Paris. Donc il ne sait pas bien de quoi il s'agit, mais il décide de partir quand même à pied jusqu'à la gare de Montélimar. Et on le suit jusqu'à la gare de Montélimar, il fait des rencontres un peu particulières, il se souvient, il rencontre des vieux amours. Voilà, on suit son trajet.
Des amours anciens, tu veux dire, pas ouais. des vieux...
Ouais, mais aussi, si, c'est les deux. La vieille notamment, il rencontre.
Ah, d'accord.
c'est un roman assez particulier, dans la langue, dans le contenu. Il se passe pas grand chose.
Voilà, ça c'est pour pas dire j'ai pas aimé. C'était un roman particulier.
Non, en fait, même Benoît Vincent le dit lui-même, c'est pas un roman pour tout le monde. Il l'a écrit d'abord en fait sur un blog, sous la contrainte. C'est un blog qui s'appelle Le Convoi des Glossolales. Et donc, c'est une contrainte de fréquence. Les auteurs écrivent un paragraphe toutes les semaines. Et donc, le personnage de Farigoul Bastard est né comme ça. Et donc, on se retrouve avec un roman. Donc, toute une partie qui raconte le voyage de Farigoul, mais on a aussi des lettres, on a aussi des poèmes. L'auteur, c'est, on sent que c'est un poète avant tout, qu'il écrit plus qu'une histoire, il écrit des mots. Enfin, voilà, c'est de la littérature, c'est une langue très particulière. Après, on sent la Provence, hein. On entend parler Farigoul avec sa langue rude, un peu. C'est très bien fait.
Ça sent le thym.
Ça sent le thym, ça sent la Farigoul.
Le thym, non, on dit.
C'est bien écrit alors. Du coup, t'as trouvé ça bien écrit?
Ah oui, c'est extrêmement bien écrit. Je pense que quand on aime la langue, qu'on aime des auteurs, je sais pas, de Loulipo, on aime Queneau, on aime Roubaud, je pense qu'on va adorer ce bouquin parce que c'est vraiment une très belle écriture, étonnante, c'est hyper varié dans la langue, dans le style de texte. Après, oui, il faut aimer les mots. Ou la Haute-Provence.
Ah.
Ok, super. Voilà. Merci beaucoup, Pauline.
Merci.
Donc, c'est un roman qui n'a rien à voir avec le mien, mais on y reviendra après. Allez, on va parler de La Végétarienne. On va partir en Corée. Hong Kong, Anaïs.
Foufou.
Oui, ça. Voilà, moi, j'ai lu La Végétarienne. Donc, c'est un roman qui a été écrit par Hong Kong en 2007. Et il a été traduit en 2015 pour une publication française. Donc voilà, Anne Kang, c'est une écrivaine très reconnue en Corée du Sud. Voilà, elle a gagné beaucoup de prix. Elle est poète, romancière et novelliste. Donc voilà, elle fait un peu de tout. Donc La Végétarienne, c'est un roman de 200 pages. Personnellement, je ne m'attendais pas du tout à lire une telle histoire. En fait, je m'attendais, de par le titre, je m'attendais à lire quelque chose
des
de
recettes.
Léger. Non, pas des recettes, mais vu que c'est dans la tendance, dans l'air du temps, le véganisme, tout ça, je m'attendais vraiment voilà, à trouver l'histoire d'une fille qui raconte ses choix, et pas du tout. En fait,
c'est très oriental, c'est ça ?
C'est purement coréen, j'allais te dire. Coréen, japonais,
je pense,
c'est vrai.
Ouais. En fait, non, donc ce roman, il est divisé en trois parties, donc trois nouvelles qui sont totalement différentes, même si elles reprennent quand même les mêmes personnages. C'est quand même totalement différent, c'est pas aux mêmes époques. Et voilà, dans la première, on découvre l'héroïne principale, entre guillemets, qui s'appelle Yonggi. Et qui est décrite par son mari comme une femme super, super ordinaire, super banale, qui n'a ni défaut ni qualité, qui est vraiment transparente, en fait. Et elle va faire des rêves la nuit, et c'est des rêves vraiment horribles, super sanglants et... Voilà, qui font vraiment peur. Et du coup, elle va devenir végétarienne.
Et à cause de la vue du sang.
Ouais, parce qu'elle sait pas trop si c'est elle qui assassine, si elle se fait tuer. Voilà, donc du coup, elle arrête tout. Et elle va même faire une tentative de suicide devant sa famille quand ils vont essayer de la raisonner. Enfin voilà, donc c'est là que ça commence.
C'est gay, hein. Merci, Louise.
Ouais, c'est pas mal pour l'été. Et du coup, voilà, donc la deuxième...
Si vous l'arrêtez de manger la bidoche, disait ce bouquin.
Mais non, parce qu'en vacances, final, on n'en parle pas beaucoup, en fait, du végétarisme là-dedans. On parle surtout.
C'est symbolique,
de...
Nico.
Voilà, c'est la deuxième partie, par exemple, qui est appelée la tâche mongolique, et je vous dirai après pourquoi.
N'en dis pas trop. Hein.
Elle est consacrée à l'érotisme et à la sexualité de cette femme qui se transforme mentalement en plante, en fait. Et du coup, c'est...
Ouais, je trouve ça intéressant, quand même. Enfin, ouais.
C'est super intéressant, mais plus tu
lis,
tu tombes dans des trucs que tu t'attendais vraiment pas, en fait. Voilà.
Donc, c'est des surprises à chaque fois.
Voilà.
Et l'idée de départ est intéressante, de mettre trois nouvelles vues de trois personnages différents.
C'est la construction. C'est là où on voit que c'est un auteur connu et reconnu. Ouais.
Et il y a une dernière partie, du coup. C'est la vision de sa sœur à elle, à la végétarienne. Donc c'est un personnage qu'on connaît déjà, qu'on a vu dans les deux autres parties, mais qu'on a survolé. Et là, en fait, on découvre vraiment qu'elle va très mal de voir sa sœur comme ça, parce qu'elle est rejetée par sa famille. Du coup, elle est enfermée en hôpital psychiatrique. Enfin, du coup, elle aussi, elle a envie de se suicider. Enfin, voilà, c'est parfait pour l'été.
Pour l'été, il pleut, c'est triste. Bon, c'est bon, j'aime mon bouquin.
On est trop heureux l'été, il faut un peu calmer tout ça. Quoi.
Non, mais c'est les jours, en fait, tu lis ce bouquin, les jours de pluie. Tu vois ? Quand t'as passé une semaine, il fait super beau, tout ça, et puis un jour, il fait tout
gris. Alors déjà, il fait pas beau, t'as pas de vacances, tu as un bouquin qui parle de suicide, c'est bon.
Justement,
c'est
un bouquin, le quatrième
c'est un bouquin où tu... C'est un bouquin où tu fais une introspection, tu vois, tu réfléchis à ta condition.
Après c'est typique des Coréens, c'est toujours extrêmement violent, mais d'une matière intelligente.
Très légèrement et voilà, très délicatement, en fait.
C'est la délicatesse.
Il faut surtout beaucoup lire entre les lignes aussi. Il y a beaucoup de textes qui est très suggestif, ouais, voilà.
Il y a du second degré.
Non, c'est pas du second degré, mais c'est tellement de tourner de manière poétique qu'en fait, il faut traduire. Quoi. Voilà.
Faut prendre le temps de le lire.
Tu as prévu de nous lire un passage ou pas ?
Oui.
Non.
D'ailleurs, Pauline, on t'a pas demandé de passage.
Si, mais ce serait intéressant que tu en lises un morceau parce que tu parles du contenu, tu parles de la forme, et je trouve que sans en lire, c'est difficile de se représenter.
Alors, on va vous laisser le temps, à Pauline, à toi, et on reviendra après.
Un petit passage, un petit paragraphe.
Oui.
Pour donner un peu aussi l'envie de lire, parce qu'on trouve que c'est compliqué, l'histoire, que c'est subjectif, qu'il y a différents personnages, que c'est très intérieur, que c'est un peu intellectuel quand même. Et donc, le fait de lire un passage, c'est vraiment très très important, je pense.
On va voir.
Ok, on reviendra. Tu veux rajouter quelque chose sur le livre ?
Non. Non, ça serait.
Elle a écrit
sauf
d'autres
que ça
choses.
Ça parle pas ouais. du tout de végétarisme, du coup.
Mais c'est souvent c'est le suggéré. Cas dans les titres. Ouais. Hein.
C'est suggéré. Elle a écrit d'autres bouquins connus, cette dame.
Oui. Alors, je me rappelle plus des titres, mais oui, il y en a d'autres.
Je meurs sur l'asphalte.
Non, il y a je Par le vent se lève.
Le... Ouais.
Et Les chiens au soleil couchant.
D'accord, voilà. Ouais.
Juste avant le dîner.
Ok, tu as un micro si tu veux parler, Valérie.
Non, je...
C'est bien parce que c'est la dernière de l'année, t'as toujours pas compris le concept de la radio. Mais...
C'est quoi le micro?
Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est là où il y a la mousse. Il faut parler dedans, sinon ça marche pas. Ça. Après, nous on t'entend, c'est vrai. Ok, merci Anaïs, on revient vers toi. Ah, je crois que Pauline a trouvé. Ne démarquez pas.
Eh ben écoutez, j'ai fait simple, hein, c'est le premier paragraphe, mais il montre allons-y. Bien ce qu'on va découvrir. Le voyage, un bon voyage serait, quoique certainement, un peu long. Il fallait d'abord se rendre en gare, ce qui pouvait occuper plusieurs jours selon les rencontres, les inattendus. En laissant sur place l'équipée, au moment où chacun s'apprête à gravir Chamouse pour en occuper les quartiers de lavande, Farigoul Bastard se sent un peu là.
Mmh. Ouais, très joli.
Ça donne envie d'aller en voyage avec lui.
Ouais. C'est vrai. Et c'est un grand poète en plus, Farigoul.
D'accord, Benoît Vincent, on le rappelle. Hein. Comme chaque émission, on vous prendra les couvertures en photographie, et on mettra sur notre site Facebook, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Avant de revenir à toi, Anaïs, pour cet extrait de ce livre et également la pause musicale, on va passer à mon livre « Jack Handey, mes aventures à Honolulu ». Donc c'est très bien que vous soyez passé avant moi. Vous pouvez tout oublier, vous pouvez arrêter l'émission après, car c'est le livre de cet été à lire. Absolument, indéniablement, un livre extraordinaire. Alors le problème, c'est que ou vous allez adorer ou vous pourrez pas passer les trois premières pages, car c'est un livre, il n'y a pas de juste milieu. C'est un roman tropical où il est question de non-sens, d'ineptie, de gags potaches, de chutes qui sont extrêmement nombreuses. 210 pages écrites assez courtes, c'est des chapitres de 3-4 pages. Jack Handey, c'est un auteur américain qui a écrit pour des émissions de télévision, dont notamment le Saturday Night Live, où il écrivait des sketchs comiques. Il fait partie d'une bande qui est fondée Army Man, c'est un fanzine humoristique. Alors il a fondé ce fanzine avec John Mayer, John Vitti et John Swatzelberg, qui sont juste les auteurs des Simpsons. Donc voilà, pour vous dire un peu
ça donne le cadre.
L'esprit, voilà. Alors, faut pas vous attendre à du Stanley Kubrick, parce que vous allez tomber sur du Monty Python. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Mais si vous avez ce type d'humour, mais alors c'est un vrai, vrai régal. L'histoire de ce livre, un narrateur qui a une sorte de mélange donc entre Homer Simpson et Indiana Jones, qui part à Hawaï, à Honolulu.
Tu fais grand écart quand même, parce que c'est t'as ça. Vu la gueule de mer.
C'est ça. Il part à la chasse au trésor pour trouver le singe d'or avec son meilleur ami Don, qui d'ailleurs, il essaye d'assassiner Don pendant tout le voyage, mais on ne sait pas pourquoi, pour des raisons utiles.
Direction. C'est pas le petit jeune du livre d'Héloïse qui a grandi.
Alors, juste si tu veux parler, il faut que tu parles dans le micro.
Non, mais le micro est trop loin aujourd'hui.
Je vais t'expliquer le concept de l'émission radio. Ouais,
pourquoi tu l'as mis si loin le micro aujourd'hui? Je suis obligée de me lever chaque fois pour parler.
S'il
attends.
Te plaît. Direction la puante ville d'Honolulu, ses rues fumantes, nauséabondes, ses ruines d'anciennes civilisations. Ensemble, ils vont devoir faire face aux innombrables dangers de la jungle, comme tout roman tropical, avec le maléfique docteur Ponzari, qui est connu pour avoir éradiqué la peste. Les féroces hommes tortues, des fléchettes empoisonnées, des peaux de banane, etc. Ils rencontrent une belle indigène qui s'appelle Leilani, qui est là pour les guider le long de la rivière Palunia, pour retrouver donc ce singe d'or. Jack Handey a écrit pour le Saturday Night Live un personnage, l'homme des cavernes, qui était repris dans différents journaux américains, The New York Citer, etc. Et il expliquait, quand je voulais écrire un livre, c'est son premier roman, je voulais que cet homme des cavernes l'envoyait à Hawaï pour savoir les dégâts qu'il ferait. Je finis en vous lisant quelques passages pour que vraiment vous ayez une idée un peu du style d'écriture. Très rapide. Et puis je sortais avec une fille et nous étions très amoureux. Son nom ne me revient pas tout de suite, mais elle était fabuleuse. Voilà. C'est que des gags non-sens. Voilà. Après le musée, je passais à la soi-disant plage où l'on pouvait louer un bateau pour aller harponner une baleine au large. Puis la baleine vous entraînait dans son sillage pendant que vous vous accrochiez à un parachute. Selon les gens du coin, le harpon ne fait pas vraiment mal à la baleine. Voilà, et c'est ça, c'est non-stop, toutes les pages, ça y va, ça n'arrête pas. Voilà, donc, par exemple, il y a l'homme tortue, donc il est avec Don et l'indigène Leilani. Il dit « Je fus réveillé par un cri qui me glaça d'effroi. Au début, je crus que c'était moi parce que je faisais des cauchemars à base de pélicans, mais c'était Don qui hurlait à plein poumon du haut d'un arbre. Je tâchais de me rendormir. Ce fut alors que j'aperçus le monstre le plus horrible que j'eusse jamais vu, après la mère de Don. Il se tenait juste au-dessus de Don et essayait de le piquer avec un long bâton taillé en pointe. Il grondait en faisant claquer ses mâchoires baveuses. C'était un homme tortue. Leilani, c'est l'indigène, se rua vers lui avec son couteau. L'homme tortue la renversa d'un revers de sa puissante nageoire. « Distrais-le !» cria Don. Je me mis à peloter Leilani, mais elle me repoussa. Voilà, donc ça, et c'est vraiment les Simpsons, c'est ça tout le long, quoi. Et donc après l'homme tortue, donc il décide de cuisiner l'homme tortue, les autres en veulent pas, il comprend pas pourquoi, bah c'est quand même c'est bon en plus, on a juste à retourner la carapace à faire cuire dedans. Donc il mange l'homme tortue, tout d'un coup il voit des yeux. Je vis deux yeux briller au milieu du feuillage d'un buisson, je me figeais sur place, Leilani les remarqua aussi et se leva, paniqué, deux petits hommes tortues bondirent de leur cachette et s'enfuirent dans les ténèbres. Eux bébé, dit Leilani, il semblait délicieux. Voilà, ça c'est la fin du chemin. Donc c'est 210 pages de ça, c'est vraiment, je sais pas où il va chercher tout ça, c'est extrêmement drôle, ça se lit en 2h30, 3h, d'ailleurs c'est un peu dommage parce qu'on en voudrait encore, c'est le premier roman de cet auteur à succès qui a été loué par tout le monde.
C'est son nom là, non ?
Non, non, c'est son nom.
Son nom.
Alors lui, il a également écrit d'autres livres, par exemple en 2008, je crois. Il a écrit des livres très très drôles. Voilà, en 2008, ce que je dirais aux Martiens, c'est un recueil d'histoires dans lequel sont abordés des sujets aussi graves que la possibilité d'un monde gouverné par les dinosaures. Voilà, c'est le style de l'homme. Donc vraiment, si vous voulez passer un moment, que vous aimez un peu cet humour non-sens, parce que je peux même pas dire second degré, quoi. Des fois, c'est du quatrième degré ou du cinquième. Et passer un bon moment, n'hésitez pas. Jack and Day, Mes aventures à Honolulu. Faut à tout prix l'avoir dans sa bibliothèque.
Ouais, tu t'es régalé, on dirait.
Ah, je me suis vraiment régalé.
Ouais. C'est bien.
Voilà, c'est léger, c'est beau, c'est sympa. Allez, on va faire une pause musicale pour se préparer à écouter la chronique de Nicolas.
C'est
Valérie.
Non, mais aujourd'hui, il a décidé.
Mais comme elle ne sait pas parler dans le micro, c'est pour ça.
De toute façon, on l'entendra pas, donc ça sera mieux après.
Après les 5 minutes de silence.
Allez, les Far Side, groupe de rap américain, pour faire plaisir à Héloïse, avec le titre Yamama, justement, des blagues sur. Et ta mère fait... voilà, c'est
génial.
Ça. Donc c'est dans le style de Jack and Day.
Your mama, your mama, your mama. Chevrolet, taking on a mountaintop, tuning on a blizzard, riding on a horse, drinking whiskey out of Mizzou, with the wings and the teeth of an African bear.
Allez, le moment que tout le monde attend dans cette émission, la chronique de Valérie. À moins qu'Anaïs ait trouvé, tu as trouvé ?
Oui, j'ai trouvé. Ah.
Ah. Et bim, pas de chronique pour Valérie.
Allez, accrochez-vous, moi, écoutez Valérie. Bien, parce qu'il y a des choses entre les
mots. C'est quoi, j'avais trouvé un micro.
Ouais. Donc là, je vais vous lire un extrait, en fait, de ce que pense Yonggi, l'héroïne de la végétarienne, parce qu'elle ne parle jamais dans ce livre. Elle n'est jamais narratrice. Et il y a juste des petits passages comme ça où on a des extraits de ses rêves, donc je vais vous en lire un.
T'as le droit à une musique de fond quand tu lis, toi, c'est bien.
J'ignore pourquoi cette femme pleure, ni pourquoi elle dévore mon visage du regard, ni même pourquoi elle caresse mon poignet bandé de sa main tremblante. Mon poignet ne me fait pas mal, c'est mon cœur qui souffre. Quelque chose est bloqué au niveau de mon épigastre. Je ne sais pas ce que c'est. C'est toujours là. À présent, je le sens même quand je ne porte pas de soutien-gorge. J'ai beau pousser un long soupir, ça ne me libère pas la poitrine. Des cris, des rugissements s'y sont accumulés, incrustés. C'est à cause de la viande. J'en ai trop mangé. Toutes ces vies sont coincées là, j'en suis sûre. Le sang et la chair sont digérés, dispersés aux quatre coins du corps. Le reste est évacué, mais les vies restent farouchement accrochées dans mon estomac.
Voilà. Merci, Anaïs.
C'est assez percutant, ouais.
Au moins, voilà, ça nous donne une image.
Ouais, merci.
Ouais, c'est pas mal.
Super.
Très bien, alors et je reprends. Ça. Alors, le moment que tout le monde attend dans cette émission, la chronique de Valérie avec les chroniques de mon crématorium, Kathleen Duffey.
Voilà, le passage choisi par Anaïs, c'était juste impeccable.
Ah ouais.
Parce qu'il fait une transition incroyable avec le livre dont je vais vous parler, les chroniques de mon crématorium. Un récit tout en légèreté sur la vie et une réflexion sur la mort. C'est l'histoire, donc, non romancée, puisqu'en fait, c'est une autobiographie qui écrit son auteur, Kathleen Duffey, qui, depuis sa plus tendre enfance, a une obsession pour la mort. En fait, lorsqu'elle avait 8 ans, elle était donc sur l'archipel de Hawaï. Donc, elle est confrontée à un accident mortel d'une petite fille. Et à partir de ce moment-là, elle a 8 ans. C'est sa vie qui va être complètement changée. Elle va devenir vraiment avec des troubles obsessionnels compulsifs envers la mort. Sa vie va être complètement transformée et en lien évidemment avec cette vision d'horreur. Le temps passe, le souvenir reste et ne s'efface pas, au contraire. Et peu à peu, elle décide de regarder la mort en face, sachant que, ben, comme tout le monde, elle ne pourra pas l'éviter. Le moment du récit commence, elle a 23 ans, elle est diplômée d'histoire médiévale et elle fait un bond en avant. Elle réussit à se faire embaucher dans une entreprise de pompes funèbres pour exercer la profession de croque-mort. Ambiance. C'est le livre de l'été, je rappelle le thème. Voilà, non, en fait,
c'est à Hawaï, ça se...
Non, après, elle va aux États-Unis. Ouais, elle va aux États-Unis, elle est à San Francisco.
Parce qu'elle a rencontré des hommes tortues à Hawaï.
Écoute, elle n'en parle pas.
C'est ce qui l'a traumatisée en vérité, je pense.
Ouais, je pense, oui, c'était... surtout sa rencontre avec le petit enfant turc de 5 ans. Végétarien. Non, en fait, elle va aux États-Unis, mais pour se faire embaucher, en fait, elle disait que c'était finalement un des métiers le plus dur pour se faire embaucher, parce qu'elle a écrit à plus de 200 entreprises de pompes funèbres, et tous lui répondaient en disant « Ben non, on vous prend pas, vous n'avez pas d'expérience, parce que c'est un métier pour lequel, pour travailler, il faut de l'expérience. » Donc déjà, ça commençait à l'agacer, mais elle a réussi donc à rentrer dans ce métier-là.
J'ai une question, comment tu acquiers de l'expérience pour ce métier-là?
Bah écoute, en travaillant.
Il y a des études, je pense.
Un thanatonopracteur. Ouais. Tu peux être thanatonopracteur, il y a un BTS, je crois.
T'enterres des gens, tu le dis pas, quoi.
Tu peux t'entraîner sur tes animaux de compagnie aussi.
Mais était.
Tu t'entraînes sur tout ça. T'as des images de lapins, c'est tu régulièrement les lapins, tu les écorches, tu les enterres.
Et en fait, elle, dès le premier jour, elle rentre dans. Je continue ma chronique, en fait, pour arrêter de raconter des conneries. Hein. Donc, dès le premier jour, en fait, à peine arrivée dans son, dans son nouveau lieu de travail, qu'elle avait beaucoup imaginé, beaucoup rêvé, on lui donne une personne à raser et à partir de là, bah, elle nous raconte son. Tout son métier, mais c'est. Alors, c'est, en même
dans
temps.
Dans le détail.
Hein. Dans le détail, ouais. C'est réel, mais c'est très drôle. Alors, par contre, amis de la team premier degré, ne l'ouvrez pas ce livre. Parce que c'est cash, c'est assez brut, mais c'est raconté par sa voix. Ben là, elle a commencé à travailler, elle a 23 ans, elle a 30 ans aujourd'hui. Donc, c'est raconté de façon très légère, très sympa, de la façon dont c'est écrit. Franchement,
elle a,
c'est sympa.
Elle a vécu
c'est pas cradi crado.
Non, mais c'est drôle, voilà. T'as trouvé ça drôle.
Ah ouais, moi je me marre.
Elle a l'humour aussi pour raconter ça. Quoi.
Ouais, voilà.
Mais elle l'a vécu, ça, vraiment.
Mais elle le vit. Elle raconte son boulot. C'est comme toi, tu écrirais ton autobiographie sur ton travail. Sauf qu'elle, son travail, ben, c'est croque-mort. Et elle raconte, je pose mon papier, j'arrête de suivre du coup ce que j'avais écrit, mais elle va raconter, par exemple, et ça c'est le truc qui m'a fait le plus marrer, et je me marre rien que d'y repenser, elle raconte, par exemple, son patron va lui dire, ben, aujourd'hui, tu dois préparer la crémation de Monsieur Rodriguez. Et en fait, elle entre dans la salle où sont entreposés les corps préposés à être mis en crématorium.
Crému, donc.
Crému. Ou crémage.
Mis en bière, non?
Non, mis en bière, c'est quand tu mets dans le souterrain. Là, mais c'est pour la crémation, donc ils sont dans des espèces de cartons. Et elle raconte et elle dit, voilà, je croise.
Du four, 300 degrés.
C'est ça. Mais en fait, c'est vachement technique pour allumer un four de crématorium. Elle explique que c'est chaud, hein.
Voilà. Et donc, monsieur Rodriguez,
elle croise les doigts en se disant, bon Dieu, j'espère qu'il sera tout en haut de la pile des cartons. Et évidemment, chaque fois qu'elle doit prendre un corps pour l'amener à la crémation, c'est toujours celui qui est tout en bas. Donc, elle raconte comment elle doit les déplacer. Et puis, c'est l'ouverture du carton. Et oui, elle ne sait pas. Elle sait juste que c'est monsieur Rodriguez qui a 70 ans, qui est décédé d'un arrêt cardiaque, mais qu'il a un pacemaker. Donc, il faut lui enlever son pacemaker parce que sinon, ça explose dans le crématorium. Et alors, elle raconte tout ça. Elle raconte comment...
Moi, j'aurais une question à poser.
Une question pour l'été. Avant une grosse
En fait, je l'ai lu avant dimanche, donc c'est encore le printemps, ça passe.
Vous comprenez, il y avait du rosé, oui, je vous en prie.
Non, mais je te jure, c'est très, très drôle. Elle raconte aussi...
Pas trop cuite, la brochette.
Au crématorium, elle enlève les cendres, donc ça vole un petit peu. Et comme il fait très chaud, elle transpire. Donc t'imagines la poussière qui vient se coller sur elle et qui transpire, qui est hyper féminine, donc très maquillée. Et après, elle se rend compte quand elle sort, elle va boire un pot avec des amis, puis elle passe la main sur l'oreille, elle regarde ses doigts, puis elle voit qu'elle a de la poudre des gens sur les doigts. Enfin, c'est
de Monsieur Rodriguez.
Voilà, de Monsieur Rodriguez. Mais c'est super drôle.
Ça, c'est du Rodriguez, ça, c'est du Sanchez.
Non, par moment, elle te détaille l'odeur comme un nez, en fait. Comme si elle était née à Grasse, elle détaille l'odeur du cadavre. C'est très poétique, avec la note de tête réglisse. Puis à la fin de cette description poétique, elle dit, bien sûr, le tout recouvert par l'odeur de putréfaction. C'est très...
Bon, Héloïse, alors qu'est-ce qui se passe dans ta vie, là? Pourquoi tu nous proposes des livres comme ça?
Je suis désolée, mais franchement...
Qu'est-ce qui se passe?
Quelle tendance, parce que là, on parle beaucoup de mort, en fait, et on parle beaucoup d'érotisme aussi. Ouais. Alors, je ne sais pas, ce que ça veut dire, il faudrait demander à ma psy.
Ouais. Il y a de l'érotisme aussi, parce qu'elle raconte un peu sa vie privée.
Voilà. Non, mais c'est franchement, je pense que ça peut être intéressant.
Non,
ce genre
c'est
de
drôle.
Livre, vraiment.
Mais... C'est drôle et en plus, c'est très léger. Enfin, ça se lit vite, ça se lit bien. Derrière ce côté hyper léger, hyper gay, Kathleen, elle a envie de qu'on arrête aussi aux enfants de leur faire croire que la vie, c'est tout beau, c'est tout rose. Elle fait un parallèle à un moment donné, pour ceux qui ont eu la chance de lire le vrai livre d'Andersen de La Petite Sirène, que la fin, c'est pas toujours élevé curieux, beaucoup d'enfants, c'est pas toujours très beau, mais la vraie histoire, à la fin, La Petite Sirène, elle se transforme en écume et elle est morte, point. Et elle, ce qu'elle rêve, en fait, c'est qu'on arrête de mettre des paillettes, des arcs-en-ciel et des petites licornes.
pour dire c'est tout le temps beau. Non, la vie c'est chouette, il y a des moments super, mais il y a des moments pourris.
Donc tu peux le lire à tes enfants en plus ce soir, c'est ça?
Tu peux.
Tu le lis pour toi et tu lis des passages.
Je vais essayer et tu me donneras l'adresse de ton site.
Non, mais c'est vrai qu'on a un certain dégoût de la mort et des cadavres, etc. Une peur, etc. Une peur ouais. Après tout, ça reste naturel, ouais. donc voilà. Pourquoi ne pas l'appréhender de cette façon,
je sais. Et elle est en train de créer une sorte de... Bon, c'est aux États-Unis, hein, donc ils n'ont pas non plus les mêmes rituels, les mêmes cultures, mais elle aimerait en fait que les familles puissent se réoccuper de leur mort. Aujourd'hui, quand il y a un mort, on l'amène là où on choisit de le mettre, et le croque-mort s'occupe de tout. Elle a dit qu'il faudrait réinviter les familles à faire tout un travail autour, sur la veille, le lavage, l'habillage, justement de reprendre conscience de ce qui se passe. Et elle fait aussi le lien, et c'est le livre d'Anaïs qui m'y a fait penser. Dans le livre, elle parle de... Je crois que c'est les Tibétains qui, eux, lorsqu'il y a un mort, en fait, le rendent à la nature. C'est-à-dire que le corps, il est redonné aux animaux, et en fait, ton corps va resservir à nourrir des vautours, des oiseaux. On est en train de perdre Sarah à côté, qui se demande pourquoi elle est là. Voilà, et elle dit, voilà, c'est le manque aussi de la perte de la culture, de nos traditions, qui fait qu'on a complètement placé la mort comme quelque chose de tabou auquel il ne faut pas penser. Et il faut en prendre compte tel que ça existe, mais ça existe, c'est inéluctable, ça nous arrivera à tous.
Tu le conseilles ?
Oui. Mais si on est prêt aussi à lire un livre sur la mort. Après, il faut le lire, c'est ce que j'ai dit, la team premier degré, on le regarde même pas. La team. Voilà,
un
team
premier degré. Un mot sur l'auteur.
En fait, il n'y a pas énormément de choses à dire. Elle est sympatouche tout plein, mais voilà, elle a 30 ans, donc elle n'avait pas encore écrit des livres. Par contre, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Et peut-être, si vous avez envie de vous donner... un petit goût avant l'achat du livre. Elle fait pas mal de vidéos sur YouTube. Où elle répond aux questions des gens.
On va lui mettre la lorgnette en lien.
Hein, voilà.
Ouais, une chronique.
Tu peux nous lire un petit passage.
Ouais, bien sûr. Ouais. Enfin, elle répond aux personnes sur YouTube. Par exemple, ils vont dire, pourquoi est-ce que on ferme les paupières des morts? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se suicident? Alors, ça devient hyper vaste.
Pourquoi est-ce qu'on mettait des pièces à l'époque?
Elle explique que les globes oculaires, ils deviennent tout mou aussi, que ça c'est tout, c'est tout pas beau.
Bon appétit. Voilà. Allez, petite lecture.
Un passage très court. Après, elle fait des liens avec justement dans ce que j'avais écrit au départ, que je n'ai absolument pas suivi. Je disais que dans le livre, c'était des liens simultanés entre Six Feet Under. Ouais, c'est pour mettre un peu de paillettes et de
la drague. Salut, t'es Mimichou, toi.
Attends, jamais.
Ça marche à Angoulême.
T'es fait des zooms.
Que chez Valère Tatou. Non, et elle fait pas mal de liens entre des trucs modernes comme Six Feet Under, la série, et aussi, taclé Alain Edgar Poe. Mais en règle, et je vais vous lire un petit bout de ce passage-là. Donc c'est « Quand Annabelle Lee, le grand amour d'Edgar Allan Poe, a été emporté par la mort, le poète rêvait de s'allonger dans la tombe aux côtés du corps glacé de sa bien-aimée. On se rappelle tous du poème. Et ainsi, toute l'heure de nuit, je repose à côté de ma chérie, ma vie et mon épouse, dans ce sépulcre près de la mer, dans sa tombe près de la bruyante mer. » Ah, le délicieux corps d'albâtre d'Annabelle Lee. Et les ravages de la décomposition, alors? Et les teintes putrides promises au malheureux amant prêt à tout pour soulager son cœur brisé? Blackout. Voilà, c'est...
Excellent.
Voilà, mais c'est plein de petits morceaux comme ça. Elle raconte son quotidien. Le quotidien, certes, il est hyper glauque, mais à côté, elle est... j'ai dit quoi? Choupinette? Pepsi? Enfin, elle est...
Minichou,
elle est... Elle a sa jeunesse, en fait, et son... et sa force de vivre qui font... pas oublier, mais qui font se rappeler qu'effectivement, la mort, c'est normal.
Super, tu nous rappelles la maison d'édition ?
Non, je ne vais pas te la rappeler, je vais te la dire, puisque voilà, je ne l'avais pas dit. C'est chez Payot.
Chez Payot.
Voilà.
Papayot.
Voilà, et pour conclure après ce petit intermède de Carlos, ce que je disais, c'est que si à la fin de l'histoire, ils ne furent pas toujours heureux et n'eurent pas beaucoup d'enfants, après tout, la vie est faite d'eau et de bas. Et qui que nous soyons, n'oublions pas que nous ne sommes que 2 à 3 kilos d'un mélange grisâtre de cendres et d'ossements.
Ouais, excellent,
avec
bravo.
Beaucoup de vide.
Voilà. Très bien. Alors si Kathleen nous entend, parce qu'on va mettre, on va poster l'émission en les mettant en lien pour qu'elle écoute cette chronique, surtout qu'elle reste à l'écoute.
Elle est française ?
Non, non, elle est américaine. Elle est de Hawaï et elle vit aux États-Unis.
If you listen, stay with us,
listen
there is Nico.
Listen to me.
Nico, un été prodigue. Ouais, Barbara Kingsolver.
Barbara Kingsolver dans Un été prodigue, en fait, collection Rivage.
Tu es le seul à avoir eu un livre en thème avec l'été, finalement.
Ben ouais, qui contient le mot. Alors Barbara Kingsolver, c'est quand même un auteur assez connu aux États-Unis, qui est né en 55, donc il y a 60 ans à peu près. Qui est en fait à la base une chercheuse en biologie et en écologie. Donc c'est quelqu'un qui a fait des études assez poussées. Elle devient après rapidement écrivaine scientifique. Mais elle souffre d'insomnie, donc en fait elle se met à écrire assez rapidement. Et elle commence par un très bel ouvrage que tu as lu, je crois. Hein,
L'arbre aux haricots. Oui, L'arbre aux haricots, voilà. C'est vraiment magnifique. Ouais.
Et comme ça elle commence sa carrière de romancière. Dans ses romans, en fait, elle traite souvent, avec beaucoup d'humour, des thèmes de défense de la nature. Bon, elle est biologiste, donc elle a une grande maîtrise un petit peu de l'environnement et de tout ce qu'on y trouve. Les arbres, les animaux, voilà. Elle a fait aussi pas mal de recherches. Donc, elle a une connaissance très, très approfondie qu'on retrouve après dans ses bouquins. Alors, un petit résumé peut-être de ce livre. Pendant un été, en fait, il peut se passer beaucoup de choses. Que ce soit chez nous ou bien dans les Appalaches. Quatre destinées se trouvent emportées par la chaleur, par le réveil des sens et la poussée de féminité que dégage cette saison. On retrouve beaucoup dans ce bouquin. C'est un bouquin extrêmement sensuel. Je voulais lire un passage où il y a de très très belles descriptions, mais aussi des descriptions, je dirais, très biologie moléculaire, quoi, où les phéromones interviennent, où elles donnent des explications pourquoi les gens sont attirés par moments les uns avec les autres. Qu'est-ce qui se passe dans cette biochimie entre ces corps, entre des gens qu'on connaît pas, mais on se sent attiré par eux. Voilà. Elle explique tout ça. C'est extrêmement sensuel, mais c'est en même temps c'est très très scientifique. C'est très rationnel. Voilà. Donc Déanna, qui est une des héroïnes de ce bouquin, qui a la quarantaine, qui est garde forestière, comme je pense Kingsolver aurait pu l'être. Hein. Amoureuse des coyotes qu'elle suit dans la forêt un petit peu partout, heureuse et recluse dans sa forêt. Elle est divorcée, elle se retrouve pendant des années en fait seule dans la forêt, elle est payée par le gouvernement, en fait pour observer les animaux et voir comment les plantes et les animaux, comment ce biotope en fait se développe. Elle est confrontée à un moment à un chasseur et envoûtée par sa personne. Alors en fait il y a plusieurs... petites nouvelles à l'intérieur qui sont redondantes en fait, qui se suivent sans se suivre. C'est-à-dire qu'on y revient, on repart, on croit que cette partie est finie et puis en fait non, ça rebondit sur autre chose.
C'est la première personne.
En fait, les trois histoires des trois femmes sont entremêlées dans le bouquin. C'est voilà. Pas une histoire, une non, histoire, non. Une histoire.
C'est entremêlé, on y revient. Donc en fait, c'est construit, déconstruit. C'est assez intéressant parce que c'est assez bien écrit. Hein,
c'est écrit à la première personne, Nico, ou pas?
Oui. À chaque fois, elle se pose comme étant l'héroïne. Donc la première, c'est Déanna. Qui a la quarantaine et qui vit dans la forêt. La deuxième, c'est Louza, qui est une jeune citadine, et qui épouse un fermier qu'elle perd dans un accident de tracteur. Il est broyé, etc. C'est abominable. Voilà.
Normal.
Et ouais. Donc, elle est obligée...
C'est le petit point, la petite ligne, la petite ligne rouge.
Et donc, elle est obligée d'affronter, en fait, ses belles-sœurs qui sont abominables. Elle ne s'entend pas du tout avec elles. Elle est souvent en conflit avec elles.
La troisième, c'est qui ?
Et ensuite, il y a deux voisins âgés, un homme querelleur et intolérant, et une femme libre et insolente, qui ont des conceptions bien différentes sur tout. Le caractère aussi, alors pourquoi le rapport avec l'été ? C'est parce que l'été amène à la fois, ce que je vous disais, des comportements humains, des rapports, des environnements, la chaleur qu'on est en train de vivre aussi aujourd'hui. Voilà, ça donne des rapports très très différents entre les gens. Et ça, elle sait très très bien l'expliquer.
Oui, mais si elle est seule dans la forêt.
Mais non, il y a un chasseur.
Un chasseur.
Et des coyotes.
Oui, elle est amoureuse des coyotes.
Elle est amoureuse des coyotes et en fait, elle se fait suivre par un chasseur.
Kathleen, it's not a problem. Stay with us.
La nature et l'humain, en fait, sont vraiment au cœur de toutes ces histoires. C'est bien écrit, donc on a beaucoup de sensualité, comme je vous l'ai dit. On a aussi des descriptions comment les corps de ces femmes se réveillent, comment les volontés s'affirment. Voilà. C'est un bon moment, on passe un bon moment avec ce bouquin. On peut le lire, donc on peut revenir dessus. On perd pas le fil, on se retrouve assez rapidement.
C'est un vrai roman d'été, justement.
Je sais pas ce que c'est, moi, qu'un roman d'été, mais.
C'est un roman qui peut être léger.
Puis dans lequel tu vas un peu te projeter. Est-ce que tu libères tes phéromones en le lisant? Est-ce que.
Je sais pas encore, hein. Je te dirai ça plus tard. voilà, donc en fait. Ça nous transmet quand même un sentiment de plénitude. C'est-à-dire qu'elle parle des Appalaches, elle parle de la nature, de ce rapport avec son fermier, etc. Pour les autres parties, il y a de vraies belles descriptions. C'est-à-dire, comme si une biologiste et une écologiste, on sent à travers ce qu'elle observe, on sent vraiment son regard et son analyse. Voilà. Et comment les hommes interviennent et détruisent tout cet environnement. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'elle redonne conscience de notre impact. Elle parle par exemple qu'on est tous capables de à sa juste mesure, hein, d'intervenir dans des choix pour éviter de couper des arbres, pour éviter de polluer la mer, pour éviter de voilà d'avoir un impact le moins important possible. Et c'est ce qu'elle essaye de faire, elle, en vivant de façon extrêmement légère, quoi.
Oui, parce que du coup, ça date de quand ce bouquin? Tu sais quand est-ce qu'il a été écrit?
Non. Oh, le piège.
Non, c'est même pas un piège. J'ai envie de savoir parce que ça a l'air très écolo et du coup.
Ouais, c'est très très. Dans le fond, c'est très très écolo. Hein.
Tout en étant hyper scientifique et romantique.
Elle a écrit en 2000. Donc il y a 15 ans.
Ah ouais, quand même.
Non, mais c'est vrai, ça dénote d'une certaine. D'un certain attrait pour l'écologie qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque encore.
Ça devait commencer en 2000. Hein.
Ouais.
Si, je crois, mais bon, c'est une tendance. Puis c'est des gens qui n'étaient pas des romanciers au départ, qui sont des chercheurs et qui, au bout d'un moment, se disent je peux publier dans des revues scientifiques, mais si je veux vulgariser tout ça, peut-être qu'il faut que j'écrive un roman. Ouais. Et du coup, voilà. Je vais vous lire un petit passage. Non, vous n'avez pas envie?
C'était le fermier.
C'est une allergie au basilic.
Alors là, en fait,
c'est le pesto. Ah si, c'est le basilic, quoi.
Là, c'est la la deuxième histoire. C'est donc les deux personnages, Lusa, la femme, et Cole, donc son mari, qui lui va disparaître après. Donc ça, c'est le moment, en fait, où ils se découvrent. Lusa et Cole avaient couché ensemble dans son appartement de Clint Street. Cole faisait l'amour en fermier. Ce qui ne signifiait pas pour autant qu'il fût brutal. Au contraire, il avait une intelligence fine de la chose physique qui le guidait vers ses odeurs d'humus, fouaillant de sa bouche veloutée les recoins humides et tendres, la retournant comme une terre fraîche. Vous êtes mort de rire, ces humeurs dures de lien, quoi. Je vous sens en proximité en train de pouffer, mais je vais aller jusqu'au bout. C'est bien fait pour vous.
C'est beau parce que la retournant comme une terre fraîche, ça aurait été brutal, il aurait dit de la labourer. Donc.
C'est vrai. Et moi, je suis en train de penser à sa fourche.
Codine.
Voilà. N'est pas écrivain qui veut. Hein.
Ouais. Donc, je reprends. Voilà. La retournant comme une terre fraîche en vue d'une glorieuse maturation. Son corps en forme de sablier, trop croûteux selon elle pour être pris au sérieux, se transforma sous l'étreinte d'un homme qui savait jauger les bêtes reproductrices au toucher. Il lui fit découvrir ce qu'elle n'avait jamais su, qu'elle était voluptueuse. Voilà. Et le bouquin, il y a des passages donc, qui sont extrêmement techniques, où elle parle des oiseaux.
Je crois que tu parlais encore de la technique.
Et des parties qui sont comme ça, je trouve assez poétiques et assez belles. Et on sent que c'est plutôt écrit par une femme que par un mec. Hein. Et que c'est. Voilà, que c'est des beaux moments, quoi. Tu lis ça, tu te poses des questions.
Super, merci Nico.
Mais trêve de plaisanterie, c'était un très bel extrait.
Ouais, c'était très beau. T'as gagné l'extrait du jour. juste un mot sur l'auteur, rapide. Est-ce que depuis 2000, elle a écrit d'autres livres ou pas? Est-ce qu'on le sait?
Oui, alors elle a écrit d'autres bouquins. Donc, L'arbre aux haricots, c'est son premier. Les cochons au paradis, Les yeux dans les arbres et Une rivière sur la lune, parmi les bouquins les plus lus.
D'accord, ouais, donc elle en a beaucoup à son
actif. Oui, oui, c'est quelqu'un qui écrit depuis pas mal d'années. Hein.
Ok, très bien. Sarah.
Donc, c'était les éditions, je ne l'ai pas dit, Rivage.
Chez Rivage, oui, oui. Ouais.
Chez Rivage. On n'a que des éditions différentes. Mm. C'est bien ça.
C'est rare.
Ouais, on va commencer par la maison d'édition alors, Sarah. Sarah, tu nous présentes quelle maison d'édition?
Donc, ma maison d'édition, c'est Les Grandes Personnes.
Les Grandes Personnes, très bien. Alors, ne fais pas de Valérie, il faut parler face
au
micro.
En fait, il ne faut jamais reproduire ce que je fais, c'est une erreur. Ouais.
Donc, le livre s'appelle « Ce qu'on a trouvé dans le canapé, puis comment on a sauvé le monde ». Il a été écrit par Henry Clarke, donc c'est son premier roman. Et il travaillait pour le magazine Mad Magazine, c'est une revue satirique. Donc, c'est l'histoire de trois enfants complètement différents. Donc, un qui a perdu ses parents, un qui n'a que son père, et un qui vit, et une petite fille qui vit avec sa mère, son père et son frère. Et sa sœur.
C'est le jeu des sept familles, quoi.
ils vivent tous au même endroit, dans la même ville, mais dans un quartier qui est, abandonné, parce qu'il y a eu un feu de mine. Donc, ils sont un peu mis à l'écart par rapport à leur lieu de vie. Et un jour, alors qu'ils sont à l'arrêt de bus, ils trouvent un canapé en bas d'une très très vieille maison. Et dedans, ils vont trouver un crayon courgette. Ils n'ont jamais connu la couleur courgette et ça les étonne beaucoup. Donc, ils décident de faire des recherches sur Internet. Et ils découvrent qu'il vaut très cher. Donc, ils le mettent sur eBay. Et les enchères, elles montent hyper vite. Il atteint 7000 euros avant qu'ils aillent au lit. Et... le lendemain, ils sont pris de gros remords parce que le canapé, il n'est pas à eux. Donc, ce qui est dedans, il n'est pas à eux. Donc, après, ils décident de recontacter le monsieur à qui appartient le canapé. Et après, je ne vais pas le dire.
Il faut tout dévoiler, ouais.
Voilà. Et en fait, c'est un livre qui traite de différents sujets plus ou moins durs. Il y a l'addiction au téléphone. On fait un lien avec les flash mobs. Qui sont diffusés par texto.
Tu peux nous expliquer ce que c'est un flash mob?
Un flash mob.
Je suis vieille. J'allais poser la question.
Un flash mob, tu danses en même temps.
C'est une photo du Jimmy Motto.
Ah oui, et tu t'arrêtes et le sang change.
Tu donnes un moment, tous, et bim bam.
Elle est géniale ta blague.
Ah, je n'ai pas entendu, c'est quoi ta blague?
Allez,
vas-y.
C'est quand tu flashais un mobilette, non?
C'est une photo d'une vieille moto.
Préférence. C'est ça, 3 et 5 blagues.
Non, Sarah, explique-nous ce que c'est vraiment.
Donc, dans le livre, le garçon, il comprend pas ce que c'est. Il croit que c'est des extraterrestres qui possèdent les gens.
Je ne veux pas t'expliquer. C'est comme ça. Tu ne sauras pas, Louise.
Vas-y, continue. T'as qu'à le lire, le livre, Héloïse.
Donc, dans le livre, le personnage principal, qui est le garçon qui a perdu ses parents, il croit que c'est les extraterrestres qui possèdent les humains, quand ils dansent tous en même temps. Mais en fait, un flash mob, c'est quand on s'envoie par SMS une musique, une danse et un moment, ouais. Et on décide en même temps de le faire à une heure, partout dans...
Précise, voilà. Voilà.
Dans n'importe quel lieu, ça peut être une ville, un supermarché, voilà. Ça traite aussi de la mort, en parlant du petit garçon orphelin.
Évidemment.
L'alcoolisme.
Évidemment.
Et l'isolement par rapport à sa situation sociale, parce que le petit garçon qui a perdu ses parents vit avec sa tante qui ne travaille pas. L'autre petit garçon qui vit seulement avec son père qui est au chômage et l'autre petite fille qui a des parents qui tous les deux travaillent.
Ok, ouais, mais du coup ça a l'air ouais. Très triste et assez dur comme bouquin.
En fait ça aurait pu, mais le garçon le raconte avec un trait d'humour très, très enfantin mais très drôle. Il se moque toujours même de leur situation quand il dit que la petite fille elle veut être absolument à la mode et qu'elle en devienne très moche. Voilà, il dit ça comme ça. Que son ami, son père, il est alcoolique, qu'il essaie de le cacher, mais ça pue. Voilà, il dit ça comme ça. Donc, avec son regard, on peut en rire, mais on comprend également la détresse de certains. Et en fait, l'histoire, elle pourrait être de science-fiction, parce qu'ils veulent sauver le monde d'un méchant. Mais en fait, tout ça,
ils sont lobotisés.
La lobotomisation.
Lobotimnosiation.
T'es obsédé par Tim.
Il y a Tim partout, il est là partout. Tu l'as lu, toi, Héloïse, ce livre?
Non.
Non, tu n'as pas pu le lire.
Non, mais je ne lis rien, tu le sais.
Très bien, merci, merci.
Wikipédia.
Cette émission. Ouais, ouais, mais on le sait bien. Tu peux nous lire un passage, oui. Sarah ? Tu as choisi un passage
J'avais trouvé, mais c'est pas ton
marqué. En fait, le précurseur du flash mob, c'est Patrick Sébastien qui, à minuit, lors des mariages, fait tourner les serviettes, c'est ça ?
Exactement.
D'accord, merci.
Mais il est précurseur de beaucoup de choses, hein, Patrick
Sébastien. Non, mais j'en doute pas. C'était juste le temps que Sarah retrouve sa page.
Ah, sinon, il aurait pu rater Nico, mais bon.
Vas-y. Donc, j'ai trouvé... J'ai trouvé
le... Mais je vais le faire, c'est Akhenaton,
non.
J'ai trouvé le passage où il parle des flash mobs.
Alors vas-y, t'écoute.
La première fois, il y a plus d'un an, ça nous avait fait peur. Comme nous étions nouveaux, nous avions pensé qu'il s'agissait peut-être d'un rituel de collège dont personne ne nous avait parlé. Cette fois-là, ils s'étaient tous levés et tournés vers la cuisine pour évoquer en chanson les gouttes de pluie sur les roses et les moustaches des chats. Et puis nous avions appris que ça ne s'était pas cantonné au réfectoire, ni même juste à l'école, mais que ça avait gagné toute la ville de Cheshire, ou du moins 90%. Les gens s'étaient garés sur le bord de la route, ils étaient descendus de leur véhicule et ils s'étaient mis à chanter. Tout de suite, je m'étais dit que des extraterrestres avaient pris le contrôle de leur cerveau.
Et oui, le flash mob, c'est pour ça. Merci Sarah. On rappelle le titre de ce livre et le titre de l'auteur.
Ce qu'on a trouvé dans le canapé, puis comment on a sauvé le monde, de Henry Clarke.
Okay. Pour grandes personnes. La maison d'édition s'appelle Les Grandes Personnes.
Les Grandes Personnes.
Il ne suit rien, il est stone, il fait trop.
Je crois que Sarah voulait dire à partir de quel âge on pouvait lire ce livre.
C'est ce que j'ai lui demandé.
C'est à partir de 12 ans si on lit bien, et après c'est pour les adolescents en général.
D'accord, tu le conseilles ?
Oui, je le conseille parce qu'il est très drôle.
Ça t'a plu, ouais ?
Oui.
Super, ben merci. Il nous reste quelques minutes, c'est la dernière
peut-être
de la saison.
Peut-être faire le tour de, voilà, des bouquins qu'on a bien aimés.
Exactement, dans cette année de lecture, merci Héloïse, qui était gain cette année de lecture. Pas...
Oui.
Hein mmh. Valérie, on va commencer par toi, parce que tu en as lu beaucoup, beaucoup.
Beaucoup trop, certainement, mais il y en a un, enfin les deux, c'est pas grave, qui vont ressortir du lot, mais c'est deux du même auteur, c'est Ogao Aito, c'était le premier que j'avais lu, c'était le ruban, alors j'ai bassiné Héloïse avec ce ruban pendant des mois et des mois, et son deuxième roman, enfin qui est son premier, mais le deuxième que j'ai lu, Le restaurant de l'amour oublié, voilà, mes coups de cœur de la saison. Retrouvé, parce qu'au début elle l'avait oublié, la retrouve. Mmh. Voilà. Donc voilà, ces deux-là.
Ok, Pauline, tu as participé à moins d'émissions, mais est-ce qu'il y a des livres qui t'ont...
Ah ouais, j'ai eu méga coup de cœur pour Le dictionnaire fou du corps de Cathy Coupry, qui était très drôle et très beau et hyper intéressant, tout ça à la fois. Super.
Anaïs, il y a un roman érotique que tu as aimé, que Kylos t'a proposé ?
Non, là, c'était le premier.
C'était le premier, ok. Moi, j'adorais le livre de l'écrivain américain sur le serial killer, là, je ne me rappelle plus, Van.
David Van.
Ouais. J'ai vraiment adoré, coup de cœur aussi, excellent. Et Debout couché aussi, sur l'histoire de ces Africains qui deviennent vigiles devant les grands magasins parisiens. Excellent livre. Nico ?
Eh bien, moi, je vais vous conseiller le S.G. Brown dans Le jour où les zombies ont dévoré le Père Noël. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Et puis, je pense pour l'été, c'est un bon petit bouquin à lire qui, voilà, vous allez bien vous marrer.
Ouais, t'as le droit à un second.
Alors, en second, je proposerai le Pierre Bordage.
C'est voilà. Le premier que tu as présenté, non ? Un des premiers, ouais.
Le jour où la Terre s'arrêta. Voilà, ça.
Où la guerre s'arrêta. Ouais.
Où la Terre s'arrêta. Non, où la guerre s'arrêta.
Wikipédia. Ouais.
Où la guerre s'arrêta.
C'était la guerre. Oui, mais bon, c'est pas grave, mais. C'est ça. Mais non, ouais, au diable le Vauvert. Voilà.
Et voilà, ça, c'était vraiment un très beau livre, très bien écrit. Voilà, aussi à lire, c'est assez facile à lire. Voilà.
Ok, super. Héloïse, cette année de lecture ?
Moi, il y en a un vraiment, enfin, il y en a deux en fait, qui m'ont beaucoup marqué. Dans Les avions, l'horizon n'existe pas, chez Alia. Et Les mille et une façons de quitter la Moldavie. C'est mes deux énormes coups de cœur de l'année.
Oui, c'est vrai qu'on aurait pu conseiller celui-là.
Ça fait deux bouquins de chez Mirobol à citer sur ce tour de table.
Ouais.
Ah,
excellent celui-là aussi. Beaucoup, beaucoup d'humour.
Merci les amis pour cette saison de littérature, une saison qui va reprendre en septembre. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie ?
Non, je disais que si vous avez envie de lire, il y a le festival de BD à Saint-Denis ce week-end.
Oui, c'est vrai, ouais, ça va être très sympa.
Voilà. C'est la bande dessinée.
Oui, j'ai dit BD, pardon, excusez-moi, bande dessinée.
Merci.
À Saint-Denis ce week-end.
Et sinon, vous pouvez acheter Mes aventures à Honolulu de Jack Handey. Restez chez vous le lire, c'est aussi très très bien. Une année de lecture, on revient en septembre. Il y aura des rediffusions cet été des émissions des de moments, la Lorgnette, ouais. Des meilleurs moments. Ou des émissions en entier, peut-être, on ne sait pas, on va voir. On ne sait pas l'heure non plus, on vous tiendra au courant. En tout cas, merci beaucoup à tous. Première semaine de septembre ou seconde, on vous retrouve pour la rentrée littéraire. Héloïse ?
Oui, ben voilà, ça va devenir une habitude en septembre, c'est la rentrée littéraire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'on va même en parler dans deux émissions d'affilée au moins. Donc voilà, on se retrouve pour ça en septembre avec plaisir. Merci.
Bonnes vacances.
Merci.
Ouais, bon été.
Bon été bientôt. Littéraire.
Et comme dirait notre ami,
au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, il y en a plein les commissariats, plein les directionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.